Et c'est probablement l'un des insectes les plus agaçants, effectivement, de la création qui va nous occuper cet après-midi. Et pourtant, vous ne regarderez sans doute plus jamais une mouche de la même manière après avoir écouté l'émission. Les mouches, qui représentent à elles seules 15% des espèces animales vivant sur Terre, c'est dire que nous n'avons pas fini de cohabiter avec elles. Et elles sont victimes de nombreuses idées reçues. Leur réputation d'animal sale est par exemple totalement injustifiée. Avec mes invités en partenariat avec la revue Nature La Salamandre, nous allons nous pencher sur le cas de cet animal surdoué avec vos messages et vos questions. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une découverte majeure autour de l'évolution des grands singes.
Et oui, un tout petit crâne de la taille d'un citron, découvert au Kenya et daté à moins 13 millions d'années, qui vient combler un vide dans l'histoire des primates. On plonge dans la tête du petit singe avec le paléo-anthropologue Paul Taffaro.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les mouches et leurs super pouvoirs dans le dossier dans quelques minutes avec mes invités que je salue, Christophe Daugeron et Julien Perrault. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Christophe Daugeron, qu'est-ce qui peut nous convaincre d'aimer les mouches alors ?
Bien, leur rôle dans les écosystèmes, leur impact général qui est très important, on le verra, en termes de pollinisation, de recyclage de la matière organique. Leur rôle est vraiment fondamental.
Beaucoup de services rendus donc par les mouches.
Beaucoup de services rendus, ce qu'on appelle dans le jargon à la mode les services écosystémiques, les services rendus à l'homme, et on verra qu'elles font partie de tout un réseau d'interactions dont nous-mêmes nous faisons partie et dont nous sommes aussi dépendants.
Ouais, Julien Perrault, 120 000 espèces de mouches, c'est ça à peu près ?
Ça fait beaucoup. Ouais, hein.
On n'a pas fini d'en découvrir.
Il y a une diversité incroyable, et justement ce qui est étonnant avec ces mouches, avec ces diptères, c'est qu'on pense tout de suite aux moustiques, on pense tout de suite à la mouche domestique, qui nous casse les pieds à longueur de journée, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a une diversité incroyable et des modes de vie complètement loufoques, insoupçonnés, près de la science-fiction.
C'est ça. Et bien, vous allez nous raconter tout ça
avec grand plaisir.
Dans quelques minutes, avec aussi une star des laboratoires, la mouche drosophile, dont on pourra parler. Et on va se retrouver avec les messages et les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Une découverte à la une en paléoanthropologie aux racines de la lignée des grands singes. Il y en avait un tout petit qui ressemblait à un gibbon. C'est pas mal, hein, c'est le cri d'un gibbon actuel. C'est ce que vous auriez peut-être pu entendre il y a 13 millions d'années dans la forêt équatoriale qui recouvrait les rives actuelles du lac de Turkana au Kenya. C'est sur ce site que ce crâne exceptionnel de primate a été découvert, Axel Villard. Et on en parle avec notre invité, le paléoanthropologue Paul Taffaro.
Bonjour Paul Taffaro.
Bonjour.
Alors vous travaillez au synchrotron de Grenoble, l'accélérateur de particules. Vous êtes co-auteur de cette étude parue à la mi-août. Une parution importante sur laquelle on a souhaité revenir à la une, mais une découverte qui date de 2014. Pourquoi s'est-il écoulé tant de temps entre la découverte du fossile et cette publication ?
Alors en paléontologie, il s'écoule toujours beaucoup de temps entre la découverte d'un fossile et la première publication. Parce que tout d'abord, une fois qu'on a découvert le fossile, il faut le préparer. Et ensuite, il faut l'étudier. Et donc tout ça prend énormément de temps. Donc typiquement, on a 2 ou 3 ans entre une découverte et sa publication, mais quelquefois c'est beaucoup plus que ça encore.
Ouais, publication donc qui est sortie au cœur de l'été, c'est pour ça qu'on souhaitait y revenir aujourd'hui. Pourquoi, Paul Taffaro, ce petit crâne est-il si exceptionnel ?
Alors il est exceptionnel parce que c'est le seul, c'est-à-dire qu'entre 17 millions d'années et 7 millions d'années, il n'y a absolument aucun crâne de primate connu qui ait préservé autre chose qu'un morceau de la face. Là, on a un crâne qui est quasiment complet et en plus, c'est un juvénile. Donc, les juvéniles sont déjà très rares dans le registre fossile, mais là, avoir un crâne complet de juvéniles, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Alors, vous ne faites pas partie de l'équipe originelle qui a découvert le fossile. Elle est venue vous voir. Quel a été votre rôle dans cette étude et pourquoi a-t-on fait appel à vous ?
Alors, en fait, le fossile a été découvert par l'équipe d'Isaiah Nengo au Kenya. Et dans cette équipe, il y a Fred Spoor, de l'UCL à Londres, avec qui je travaille déjà depuis quelques années, et donc ils savaient très bien ce qu'on sait faire à Grenoble. Et quand ils ont découvert ce petit crâne, étant donné que c'était quelque chose de vraiment exceptionnel, ils ont décidé de me contacter, parce qu'en fait, à Grenoble, on a développé le pôle d'imagerie le plus puissant au monde pour étudier les fossiles. Et donc, c'était logique qu'un fossile exceptionnel d'utiliser un système d'imagerie exceptionnel, c'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi.
Ça paraît pas simple pour tout le monde qu'on étudie les fossiles avec des accélérateurs de particules. Comment ça se passe pour vous alors ?
Alors en fait, le synchrotron, c'est en effet un accélérateur de particules, on accélère des électrons, mais on n'utilise pas les électrons, on utilise une propriété qui est que ces électrons accélérés, quand on les passe dans un champ magnétique, ils se dévient et ils produisent de la lumière. Et cette lumière, qu'on appelle la lumière synchrotron, d'où le nom de la machine, cette lumière est dans les rayons X, dans notre cas, et ça nous permet d'avoir des rayons X comme ce qu'on peut faire avec un hôpital, mais des milliards de fois plus puissants qu'avec un hôpital, et donc des milliards de fois plus précis. Donc on arrive à avoir des détails qui sont de l'ordre de ce qu'on verrait avec un microscope, sauf qu'on n'a pas du tout besoin de couper les échantillons. Donc on peut voir énormément de détails dans les fossiles sans avoir à les détruire.
Paul Taforo, la première chose que vous avez souhaité savoir lorsque vous avez eu ce petit crâne entre les mains, c'était son âge ?
Alors c'était son âge biologique,
oui.
À savoir que son âge géologique, qui est à peu près de 13 millions d'années, il a été étudié par une étude sur le terrain. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était son développement dentaire, car les dents enregistrent leur propre développement au jour le jour. Il y a des stries de croissance, un peu comme dans les arbres, sauf que ces stries peuvent être précises à quelques jours près. Et donc là, vu qu'on avait accès à un juvénile dont toutes les dents définitives sont encore dans l'os, elles sont très bien préservées, eh bien, on pouvait compter les lignes de croissance dans les dents et donc déterminer l'âge précisément, ainsi que le temps de formation de chaque dent et la séquence de développement dentaire.
Donc il avait quel âge, en l'occurrence ?
Alors, il avait 485 jours, avec une précision de l'ordre de 40 jours.
Incroyable.
Alors, on a quand même une marge d'erreur, mais c'est très très faible. Donc, c'est-à-dire 1 an et 4 mois.
Pour un individu qui a vécu il y a 13 millions d'années, on le rappelle, Axel.
C'est alors, ça.
Mais, et en plus, dont on n'a que le crâne. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il ressemblait à un gibbon, alors que vous n'avez que le crâne ?
Alors, on dit que son crâne ressemblait au crâne d'un gibbon. On ne peut pas dire que l'animal complet ressemblait à un gibbon. D'ailleurs, c'est très probable qu'il n'ait pas du tout eu les longs bras des gibbons. Les gibbons ont une adaptation très particulière pour bouger dans les arbres, aller très très rapidement de branche en branche. Et on pense que ce petit primate n'avait pas cette adaptation parce que son oreille interne n'est pas du tout équivalente à celle d'un gibbon. Et l'oreille, c'est l'organe de l'équilibre. Et donc on sait que cet animal n'était pas capable de faire les cabrioles que peut faire un gibbon. Donc quand on dit qu'il ressemblait à un gibbon, c'est-à-dire qu'il faisait à peu près le même poids qu'un gibbon, la forme générale du crâne est assez similaire, et le développement dentaire se fait de la même façon que celui d'un gibbon. Mais pour autant, il y a aussi de grosses différences avec les gibbons, notamment donc au niveau de l'oreille, mais également au niveau de la forme des dents.
Est-ce que c'est un des seuls fossiles qu'on ait des premiers grands singes qui sont apparus sur Terre ?
Alors en fait, non, des fossiles de grands singes, on en connaît quand même pas mal. Des fossiles avec des crânes complets, ça c'est déjà beaucoup plus rare. C'est-à-dire qu'à part les fossiles de proconsuls, qui ont à peu près 20 millions d'années, qui viennent d'Afrique, après, tout ce qu'on connaît, c'est des dents isolées. Et de temps en temps, on a un petit morceau d'os, mais ça reste très rare.
Oui,
donc la plus grande partie du registre fossile, c'est uniquement des dents, ou quand on a de la chance, un morceau de mandibule. Et on doit avoir, si je me trompe pas, deux faces connues, mais il n'y en avait aucun connu avec la partie endocrânienne, donc la partie où il y a le cerveau.
Ouais, donc vous aviez un véritable trésor entre les mains. Comment ça se passe une séance de manipulation dans un accélérateur de particules avec justement un tel trésor ?
Alors déjà, on essaie d'y faire attention, on évite de le casser, évidemment.
Oui, ce serait ballot.
Donc on va le mettre dans un tube en plastique en le fixant avec du polystyrène pour être sûr qu'il puisse pas bouger. Et puis après, ben on va le passer face au rayon X, on fait en gros des radiographies, comme avec des radios d'hôpital, sauf qu'il y a un peu plus de puissance. Et on enregistre les radios, et à partir des radios, on reconstruit des coupes virtuelles qu'on va voir en 3D après. Et donc on a fait plusieurs scans du crâne, on a fait deux scans complets pour être sûr d'avoir toute l'anatomie générale. Et après on a poussé la résolution pour aller voir les oreilles plus en détail, les dents. Et après on est allé jusqu'à des résolutions submicroniques, donc ce que je disais tout à l'heure, l'équivalent d'un microscope, pour aller voir les stries de croissance dans les dents. Mais dans les faits, on a manipulé le crâne une fois au début de l'expérience et on l'a démonté à la fin. Mais entre tout ce temps-là, il y a eu une semaine complète pendant laquelle on n'a pas du tout touché le crâne. Il était sur les systèmes de moteur pour être scanné.
Au final, qu'est-ce qui nous apprend ce petit singe sur l'histoire des primates ?
Alors ce qui nous apprend, c'est que c'est une forme qu'on peut considérer comme primitive sur beaucoup de ces points. Et la première impression qu'on a eue quand on l'a étudié, on s'est dit on a trouvé l'ancêtre des gibbons. Alors on était tout contents. Et quand on a étudié plus en détail les différents caractères, on s'est rendu compte que non, c'était pas l'ancêtre des gibbons, mais que c'était un animal qui était très primitif et que donc les gibbons avaient simplement gardé beaucoup de caractères primitifs du groupe des grands singes. Et donc, ce petit primate, en fait, il est un très bon candidat pour nous donner une idée de l'ancêtre commun du groupe des grands singes. Alors, on ne dit pas que c'est l'ancêtre commun des grands singes, parce que déjà, à 13 millions d'années, c'est un petit peu trop jeune pour ça. Mais par contre, il a vraiment les caractères physiques qu'on aurait attendu pour un ancêtre commun. Donc, on peut penser que l'origine de ce groupe est dans le groupe des Nyanzapitecinae. Donc, c'est un nom un peu barbare pour le groupe dans lequel on trouve ce petit primate.
Pourquoi on trouve si peu de fossiles de ces primates anciens ?
Alors, ça dépend où on cherche, mais en Afrique, on en trouve très très peu sur cette période entre 17 millions d'années et 7 millions d'années, tout simplement parce que les conditions de fossilisation sont très mauvaises à cette période. Pour faire un fossile, il faut avoir de l'eau, généralement, donc une rivière, un lac ou quelque chose comme ça, et il faut que les conditions chimiques du sol soient compatibles avec le fait de ne pas dissoudre les os. Et quand on est en forêt équatoriale où il pleut beaucoup, eh bien, les sols sont très acides et donc les os sont détruits très rapidement. C'est très difficile de faire un fossile dans ces conditions. C'est pour ça qu'il y a très très peu de fossiles sur toute cette période-là. Par contre, quelquefois on a de la chance et ça peut être soit une rivière, ça peut être un phénomène qui fait que localement les conditions de fossilisation sont bonnes et là on peut trouver un fossile bien préservé.
Et où se trouve le crâne actuellement de ce primate ?
Il est retourné au Kenya. En fait, il est sorti du Kenya uniquement pour l'expérience qu'il y a eu en 2015. Mmh. Il est sorti pendant 10 jours du Kenya. Il y est retourné depuis, il est là-bas.
Merci en tout cas pour vos informations et vos explications, Paul Taforo. Donc, vous travaillez au synchrotron de Grenoble, paléoanthropologue. C'est une avancée importante, en tout cas, de pouvoir utiliser ces outils pour retracer le passé de ces fossiles. Merci à vous et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, dépister la maladie d'Alzheimer dans le fond des yeux. Voici l'idée bon marché et efficace proposée cette semaine par des chercheurs de Los Angeles. Partant de l'hypothèse que les plaques amyloïdes, ces amas de protéines cérébrales que l'on retrouve dans le cerveau des malades, apparaissent aussi sur la rétine. Ils ont scruté le fond des yeux de plusieurs patients, sains et malades, à l'aide d'un rétinographe. Résultat, les personnes atteintes d'Alzheimer avaient en moyenne 4,7 fois plus de plaques visibles que les personnes saines. Un résultat important et conforté par une autre observation: la perte de neurones sur la rétine est aussi un bon indicateur de la perte de neurones dans le cerveau. Une méthode de dépistage simple qui fait donc ses preuves aujourd'hui, mais toujours aucun traitement pour cette maladie. Il pleut des diamants au cœur de la planète Neptune, proche du noyau de cette géante gazeuse. Les pressions sont si fortes que le carbone des différents hydrocarbures de l'atmosphère cristallise et forme du diamant. Cette idée, qui n'était qu'une hypothèse, vient d'être vérifiée en laboratoire par les puissants lasers à rayons X de l'accélérateur SLAC de Stanford. Les physiciens ont simulé les conditions qui règnent à 10 000 km sous la surface de Neptune, 150 gigapascales de pression, 5000 degrés Celsius, et ils ont obtenu de tout petits diamants nanométriques. Ils ne savent pas encore si le noyau de Neptune est complètement recouvert d'une enveloppe diamanteuse ou s'il s'agit seulement d'une mer d'hydrocarbures sur laquelle flottent quelques icebergs de diamants, mais les chercheurs espèrent déterminer grâce à de nouvelles expériences si c'est le cas. Et puis Alan Turing était un chercheur méthodique et secret. C'est ce que nous apprennent 150 nouvelles lettres retrouvées par hasard dans un meuble de l'université de Manchester. Ses correspondances de travail, qui s'étalent de 1949 à 1954, ne laissent rien paraître de ses tourments et de ses souffrances durant cette période. Considéré comme le père de l'informatique, homosexuel à une époque où c'était un délit, Turing a été condamné à une castration chimique aux hormones. Les écrits retrouvés contemporains à cette période de troubles ne laissent rien paraître de ses difficultés et donnent un aperçu intéressant de ses méthodes de travail et de sa vie académique. C'est ce que précise Jim Miles, le chercheur qui a découvert ces lettres. Alan Turing, on le rappelle, a bénéficié à titre posthume du pardon royal de la reine Elisabeth II en 2013. Allez, nous partons au pays des mouches dans un instant.
Et tu le retrouveras.
Avec ses camarades maliens Toumani et Sidiki Diabaté.
La tête au carré sur France Inter.
Alors, je sais, on a mauvaise presse. Nous, les diptères, on refile des maladies. Paludisme, maladie du sommeil, fièvre jaune, dengue, cécité des rivières, leishmaniose. Mais on est juste des vecteurs, on transmet, c'est pas vraiment notre faute. Quand votre collègue vous refile la grippe, vous êtes pas là à le menacer avec une tapette. On voit d'ailleurs qu'il y a de sacrées inégalités dans ce monde. Prenez les abeilles, c'est avec leur pull rayé. Les meufs, c'est bon. Elles font le miel, genre elles ont une mission sacrée sur Terre. Tu fais pas plus snob qu'une abeille. Non, mais les abeilles, elles ont la cote, parce que ce sont des insectes dits sociaux. Et nous alors, on serait quoi? Des insectes asociaux? Mais il n'y a pas plus social que nous. On vient tout le temps se coller. J'ai passé la journée sur les fesses de bouc. Oh, ça poque est grave. Mais revenons-en à nos mouches.
Et c'est une mouche donc qui nous parlait, extrait d'un film qui s'appelle La vie des mouches, édité par La Salamandre. Une nuée de mouches dans notre dossier cet après-midi avec nos invités. Christophe Daugeron, vous êtes entomologiste et maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle dans l'équipe CNRS Mécanismes Adaptatifs et Évolution. Et puis Julien Perrault, vous êtes le directeur rédacteur en chef de La Salamandre avec les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Sur le mot-clé l'attaque, tout ce que vous souhaitez savoir sur les mouches, c'est cet après-midi pendant une heure. Christophe Daugeron, d'ailleurs en 2007... Vous vous étiez occupé d'une exposition, l'expo qui fait mouche, hein, c'était au muséum. Quel type de réaction provoque cet animal auprès du public? D'abord, est-ce que ça fonctionne une exposition sur les mouches? Vous étiez avec le public quand même?
Oui, ça avait bien fonctionné. C'était une exposition que nous avions adaptée d'une expo qui avait été conçue en Suisse, oui, justement, et qui avait attiré quelques 100 000 visiteurs à ce moment-là. Donc ça avait, oui, vraiment très très bien marché. Je pense que les gens étaient curieux de découvrir ce monde qui était complètement étranger pour eux, en dehors de la mouche domestique qu'ils ont l'habitude de voir dans leur maison. Ouais. Donc ils étaient venus pour en savoir un petit peu plus.
Ouais. Julien Perrault, c'est quasiment une opération de réhabilitation aussi avec la salamandre là.
Ben oui, mais
pourquoi la mouche hein, c'est votre
c'est
titre.
C'est un peu voulu parce que c'est vrai que dans la salamandre on présente toute la nature qu'on peut découvrir autour de chez soi et puis on va pas parler que de la jolie petite mésange, que du gentil chevreuil. C'est aussi rigolo de temps en temps de s'attaquer à des thèmes un peu moins populaires. Et c'est vrai que la mouche, au-delà des préjugés qu'on pulvérise les uns après les autres, on se rend compte qu'elle a plein de choses à nous apprendre, qu'il y a une diversité de mouches phénoménale, qu'il y a des modes de vie, comme je disais avant, qui sont juste de la science-fiction, et que c'est des insectes, en plus, qui sont extrêmement utiles pour la plupart. Après, c'est vrai qu'il y a une centaine d'espèces de mouches qui nous causent des gros soucis sur la planète entière, qui nous parasitent, qui parasitent notre bétail, mais c'est vraiment très très peu par rapport à la diversité des diptères.
Ouais. Christophe Daugeon, c'est vrai qu'on parle souvent des moustiques comme vecteur de maladie, mais les mouches aussi, c'est ce qu'on découvre là dans le dossier.
Oui, il y a, vous l'avez dit, à peu près une centaine d'espèces qui sont assez problématiques, qui posent des problèmes sanitaires, des problèmes dans le domaine agricole, par exemple. Bon, ce ne sont pas les seuls insectes qui peuvent poser des problèmes, il y en a d'autres. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont une mauvaise presse et une mauvaise réputation pour cela. Le paludisme, c'est quand même des centaines de milliers, des millions de personnes qui sont touchées à travers le monde.
Et les mouches transmettent le paludisme?
Alors, ça ne sont pas les mouches, ce sont des moustiques. Ouais. Mais vous avez effectivement à côté des diptères qu'on considère comme un petit peu plus évolués, entre guillemets, qui sont donc qu'on appelle des mouches, qui vont aussi poser des problèmes sanitaires ou agricoles en parasitant, par exemple, le bétail. C'est assez fréquent. On a des mouches qui sont miasigènes, par exemple.
Ça veut dire quoi?
Alors, miasigène, ça veut dire que... Alors, c'est
pas vous très... alliez nous dire ça comme ça en passant, ouais, sans
juste
nous
comme
expliquer.
Ça, parce que ça va peut-être faire fuir les auditeurs, puisqu'il s'agit en fait de l'action des asticots qui sont capables de se nourrir de tissus vivants, c'est-à-dire que les mouches pondent par exemple sur des plaies animales, parfois humaines, mais c'est tout à fait exceptionnel, et la larve se développe aux dépens de tissus vivants. Donc,
est-ce que ce sont les fameuses mouches dévoreuses d'hommes? Alors, comme on l'explique dans le dossier.
Alors, c'en est une, effectivement, la Lucilie bouchère qui sévit en Amérique centrale et contre laquelle on est en train d'essayer de lutter par des méthodes sans insecticides.
Elle infestait autrefois la brûlure faite au fer rouge et aux esclaves, aux bagnards.
Ouais. Ah non, c'est horrible. C'est horrible. Après, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il existe aussi des espèces de mouches qui ne se nourrissent que de tissus nécrosés. Ouais. Notamment certaines mouches vertes qui étaient utilisées dans beaucoup de civilisations et dont on déposait exprès les asticots sur des plaies. Et en fait, ça nettoyait les plaies, ça empêchait la gangrène. Et c'est des méthodes qui ont été redécouvertes pendant la Première Guerre mondiale par un médecin américain et qui commencent ça va être utilisé maintenant dans certains hôpitaux parce qu'on se rend compte que dans certains types d'infections, avec les résistances aux antibiotiques, c'est parfois beaucoup plus efficace de nettoyer une plaie en utilisant des asticots. Et en plus, c'est un mode de traitement qui est très bon marché.
Oui, on a même largué par avion des mâles stérilisés dans certaines régions du monde.
Oui, des centaines de millions. Ouais, oui, parce que justement, cette Lucilie bouchère dont je parlais avant, là, une de ses particularités, son point faible, c'est que la femelle ne peut se reproduire qu'une seule fois. Enfin, elle ne peut s'accoupler qu'une seule fois. Mmh. Donc, si elle s'accouple avec un mâle que vous avez stérilisé, eh ben, vous mettez fin au fléau.
Ouais. Comme chez les moustiques, est-ce que ce sont les femelles qui sont les plus virulentes, Christophe Daugeron, ou pas chez les mouches?
Dans le cas de diptères hématophages en général, ce sont les femelles qui absorbent le sang, qui est une source de protéines importante pour elles, en particulier pour la maturation de leurs œufs. Mais il y a des cas assez exceptionnels, comme la glossine par exemple, qui transmet la maladie du sommeil, où là, à la fois les mâles et les femelles sont hématophages.
Mais généralement, c'est la tsetse. Alors, le muséum possède une belle collection de mouches aussi. Une collection de référence?
Tout à fait, c'est une collection de référence, une des premières dans le monde, pas la première, mais l'une des premières. Et c'est une collection qui témoigne de toute la diversité de ce monde vivant à travers le monde, puisqu'on a des collections qui sont très représentatives de la plupart des grandes régions biogéographiques de la planète.
Ouais. Alors, Julien Perrault, quand on lit ce dossier de la salamandre, on apprend des choses d'abord étonnantes dans les généralités, c'est-à-dire que les diptères, donc la grande famille, mouches, moucherons, moustiques, c'est 15 à 20% des espèces animales sur Terre.
C'est gigantesque. Pour vous dire, à titre de comparaison, les mammifères club dont nous faisons partie, c'est à peine 0,5%.
C'est ça, oui.
Donc le poids des diptères est phénoménal, et il est aussi phénoménal en termes d'espèces, mais aussi en termes de poids. On pense que les mouches du monde entier pèsent probablement autant que probablement tous les vertébrés. Ouais. Donc c'est vraiment une catégorie d'êtres vivants qui joue un rôle important dans les grands équilibres de la planète.
Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que ces insectes sont apparus très tôt sur Terre, Christophe Daugeron?
Oui, les premiers fossiles dont on dispose ont plus de 200 millions d'années. Donc c'était des diptères qui ressemblaient un petit peu à ce qu'on appelle les cousins. Ce sont ce qu'on appelle des nématocères, des diptères à antennes longues. Et puis, peu à peu, ils se sont diversifiés. Donc il y a plus de 200 millions d'années d'histoire derrière les diptères. Et les mouches telles qu'on les connaît aujourd'hui, celles qu'on rencontre dans nos maisons, elles sont apparues beaucoup plus récemment. Elles sont apparues juste après la crise du Crétacé tertiaire, il y a environ 65 millions d'années. Et ce grand groupe auquel elles appartiennent s'est fortement diversifié depuis.
Ouais. Donc les dinosaures ont eu des mouches autour des yeux, comme nos vaches aujourd'hui probablement.
Oui, tout à fait. C'est ça ? Tout à fait. Il y a eu une grande phase de diversification aussi au moment de l'apparition des plantes à fleurs, puisqu'il y a eu probablement une coévolution entre certains groupes de diptères et d'ailleurs d'autres groupes d'insectes, notamment les hyménoptères auxquels appartiennent les abeilles, et les plantes à fleurs.
Ouais, on apprend plein de choses. Par exemple, le fameux cousin justement dont on parlait il y a une seconde, Julien Perrault, c'est la tipule géante. Pourquoi on l'appelle le cousin d'ailleurs, vous savez ça ou pas?
Je sais. En fait, je sais pas. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que c'est la plus grosse mouche qu'on ait chez nous.
Donc, oui, c'est donc une mouche.
C'est une mouche qui a un système de défense un peu primitif mais efficace. Si elle est saisie par un prédateur, elle peut détacher volontairement une de ses pattes.
Ouais, très pratique.
Et comme ça, elle peut s'enfuir. Et une femelle, quand elle se fait attaquer par un prédateur, elle a aussi le réflexe de pondre. Parce que voilà, avant de mourir, vite faisons des petits, quoi.
Ouais, et il y a 200 espèces, rien que les cousins, il y a 200 espèces en France, par exemple. C'est incroyable quand même. Hein.
Ouais. Ah là, vous entrez dans un monde, un véritable monde.
C'est vrai. Et c'est le dossier de l'émission cet après-midi. On parle donc des diptères et des mouches en particulier. Vos messages, franceinter.fr.
Just try. You believe in you.
Michael Kiwanuka avec Cold Little Heart.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, au Pays des Mouches avec nos camarades entomologistes Christophe Daugeron et Julien Perrault de La Salamande. D'ailleurs, on rappelle, Julien, que La Salamande n'est disponible que par Internet et donc par abonnement.
Oui, il faut vous abonner sur salamandre.net.
Voilà,
exactement.
On ne trouve toujours pas la revue dans les kiosques. Hein.
Non, elle est trop belle.
Irréductible Suisse.
Elle est trop belle pour la gaspiller.
Ah oui, c'est ça. Avec La Salamande Junior également.
Pour les enfants et la petite salamandre aussi.
Voilà. Ouais. Et puis donc cette vidéo sur la vie des mouches et les mini-guides, hein, toujours, qui sont très pratiques pour des cours. Bah, cette famille des diptères, alors c'est quoi finalement les diptères, qu'est-ce qui les caractérise?
Alors, le plan général du diptère, c'est des insectes donc, qui ont une grande paire d'ailes apparentes, donc ils utilisent pour voler, hein, les ailes membraneuses. Mm-hmm. Et puis, diptère, ça veut dire deux ailes. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la deuxième paire d'ailes s'est transformée en petites haltères qui sortent des deux côtés du corps, derrière les ailes qui servent à voler. Mm-hmm. Et ces petites haltères, elles jouent aussi un rôle fondamental. C'est des espèces de gyroscopes qui sont bardés de poils sensoriels et qui permettent à la mouche en permanence de sentir sa trajectoire, de sentir les courants d'air. Et c'est un des secrets, disons, du vol de ces insectes qui est juste incroyable. Hein. Beaucoup de mouches arrivent à voler en arrière, à faire du surplace.
Ah oui, il y a la marche arrière.
Comme des hélicoptères, hein. Et c'est probablement grâce à ces haltères.
Avec un battement d'ailes, mais ça aussi, c'est complètement hallucinant.
Extrêmement rapide. Alors,
300 battements par seconde, c'est possible, ça?
Ça dépend beaucoup des sortes de mouches, mais c'est vrai que certaines mouches arrivent à cette cadence, parce qu'en fait, le cerveau, à un moment donné, donne un ordre au thorax, et puis l'armure, si vous voulez, du thorax se déforme de manière extrêmement rapide. Bah oui. Et puis ça déplace les ailes.
Incroyable.
À un rythme tel d'ailleurs que le cerveau ne suit plus, donc c'est à un moment donné c'est en autonomie, c'est les muscles qui fonctionnent en autonomie.
On a réussi à filmer ça, Christophe Daugeron?
Ça a déjà été filmé, effectivement, et ce qu'il faut juste préciser, c'est que le thorax des diptères en particulier est extrêmement développé parce qu'il abrite justement de nombreux muscles qui permettent le fonctionnement de ces ailes. Ce qui veut dire aussi que les diptères sont dans l'obligation, à l'état adulte, de trouver des sources d'énergie dans la nature importantes pour faire fonctionner ces muscles et donc pour pouvoir voler.
Du carburant,
donc d'un côté,
ouais.
C'est un gros avantage. Hein, ouais. Ce sont des espèces qui se déplacent généralement très rapidement, aisément, ce qui peut procurer un avantage certain dans la nature, hein, pour échapper à des prédateurs, par exemple. Mais en même temps, il faut trouver des sources de nourriture, en particulier des ressources, par exemple, sucrées, pour pouvoir faire fonctionner ces muscles.
Eh bien, justement, pour en savoir plus sur la nourriture des mouches, voici un extrait du film de David Cronenberg avec Jeff Goldblum.
Ce n'est pas si terrible que ça, finalement, d'être transformé en quelque chose d'autre.
Transformé en quoi?
Si je te disais une mouche, tu me cadres? Comment Brandel Mouche mange-t-il? Il a découvert de façon difficile et douloureuse qu'il mange comme les mouches. Ses dents lui sont devenues inutiles, parce que, quoi qu'il puisse toujours mâcher de la nourriture solide, il ne peut pas la digérer. Elle lui fait mal. Alors, comme une mouche, Brandel Mouche broie ce qui est solide avec un enzyme corrosif appelé paradoxalement du suc gastrique. Il déverse ce liquide sur la nourriture, ça la liquéfie, et alors il l'aspire. Prêt pour une démonstration, les enfants? On y va.
Voilà, Jeff Goldblum qui se transformait donc en mouche dans ce film de 1986. Christophe Daugeron, assez fidèle à la réalité, ce qu'on entend là.
C'est le phénomène de régurgitation. Effectivement, les diptères sont capables de régurgiter des un ensemble de substances chimiques qui permettent de liquéfier les aliments pour pouvoir ensuite les aspirer. Mmh. Donc c'est ce qu'ils font avec le petit morceau de sucre qu'il y a sur votre table là, quand vous prenez votre café et vous voyez une mouche. C'est exactement ce qu'elle fait. Mais c'est ce que certains diptères font aussi en capturant leur proie. Ils liquifient l'intérieur de leur proie pour ensuite pouvoir absorber tout ce qui est nécessaire à leur alimentation.
Voilà, c'est tout à fait charmant. Quand la mouche perd sa patte, est-ce que ça repousse, demande Georges sur franceinter.fr?
Non, ça ne repousse pas. Les diptères, comme d'autres grands groupes d'insectes, sont des insectes à métamorphose complète. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a un stade larvaire et à un moment donné, la larve se transforme complètement en adulte. Et une fois que les organes sont formés, c'est définitif. Donc si une mouche perd une aile ou une patte, ça ne repoussera pas.
Bon, et c'est très handicapant pour elle ou pas?
Alors, chez les tipules, ce ne sont pas des individus qui...
Donc les cousins. Hein.
Les cousins, ouais. Voilà, qui sont des individus qui sont capables quand même de voler, qui n'ont pas un excellent vol, mais on pense qu'une patte ou deux en moins, ce n'est pas forcément très handicapant.
Ouais. Mmh.
Leur durée de vie, en plus, n'est pas très très longue. Ils sont là à l'état adulte uniquement pour s'accoupler. Mm-hmm. Donc, c'est pas forcément très grave.
Julien Perrault parlait tout à l'heure en précisant ce qu'étaient les diptères de cette paire de pattes atrophiées, donc qui n'existe quasiment plus aujourd'hui.
Paire d'ailes.
Est-ce que c'était le cas du temps des dinosaures, justement? Est-ce qu'il y avait ces deux paires d'ailes ou pas?
Oui, tout à fait. Les fossiles dont on dispose, c'est vraiment ce qui caractérise les diptères, hein, comme leur nom l'indique. C'est une seule paire d'ailes. Donc, les premiers fossiles ne possèdent qu'une seule paire d'ailes, oui.
Déjà.
Charlie Roquindé, c'est sur Twitter, demande comment une mouche juvénile fait-elle pour intégrer tous ses comportements sans jamais avoir rencontré ses parents, Julien Perrault.
Ça s'appelle de
l'instinct, ça, non?
Oui, c'est le grand miracle de la génétique. Hein. On ne peut pas l'expliquer ça différemment. Tout le bagage génétique d'une espèce qui détermine toutes sortes de choses, dont finalement des comportements. Mais remarquez que c'est le cas chez beaucoup d'autres animaux. Si vous prenez par exemple les bébés coucous, hein, ces oiseaux qui sont parasites, les jeunes, quand ils s'envolent, ils n'ont jamais non plus rencontré de coucou adulte. Et ils savent aussi ce qu'est un métier de coucou, avec des comportements très complexes.
Le métier de coucou, on fera une émission de là-dessus. Je suis sûr qu'il y a des choses à raconter.
Oui, on a un projet
c'est
de numéro là-dessus.
J'en étais sûr. Christophe Daugeron, justement, ces mouches, on les trouve absolument partout dans le monde aujourd'hui, dans tous les écosystèmes, absolument, même les plus austères et les plus extrêmes.
On les trouve partout. Alors évidemment, comme tous les insectes, ils vont être majoritaires, très bien représentés dans les zones tropicales. Dans les zones tempérées, on les trouve aussi en abondance, en particulier dans les zones d'altitude, par exemple. Mais on les trouve aussi dans des milieux extrêmes. On a des espèces qui vivent dans des zones désertiques. On a un certain nombre d'espèces qui vivent en Arctique. Et puis, quelques-unes qui vivent aussi sur la péninsule antarctique. Mm-hmm. Ce sont des diptères qu'on appelle des chironomes, qui ressemblent un petit peu à des moustiques et qui sont capables de vivre aussi ici.
Est-ce que les mouches sont les derniers insectes, au fond, qu'on peut trouver en altitude ou pas?
Alors, on peut dire oui, parce que les études que nous menons actuellement montrent en particulier que plus on monte en altitude, plus les autres groupes d'insectes se font rares pour différentes raisons. Mmh. Il y a des adaptations particulières d'un certain nombre de diptères aux zones froides en général. Donc, c'est la raison pour laquelle, à partir de 2500 mètres, 3000 mètres d'altitude, on va trouver principalement en insectes des diptères. Très peu d'autres choses. Et aussi, c'est la raison pour laquelle ils sont abondants dans les zones arctiques, voire même sur la péninsule antarctique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
C'est ce que vous observez en vous baladant dans vos montagnes suisses, Julien Perrault?
Oui. Et comme vous l'avez découvert, à partir d'une certaine altitude, les diptères jouent un rôle fondamental au niveau de la pollinisation, puisque passé un certain seuil, finalement, ils pollinisent plus de fleurs que les abeilles, qui deviennent très rares en altitude. Après, bon, il n'y a plus que des bourdons qui restent chez les hyménoptères. Mmh. Donc vraiment, en montagne, les diptères jouent ce rôle fondamentalement.
Ouais. La mouche est un peu plus molle, d'ailleurs, en altitude. Hein.
Oui, elles ont souvent les réflexes un petit peu.
Elles sont ralenties,
c'est vrai. Bah oui, bah, souvent.
Elles se laissent écraser, quasiment sans rien dire.
Ben, en altitude, les températures sont plus froides. Même s'il fait beau la journée, la nuit, il peut faire très très froid. Donc il y a moins d'énergie, il y a moins de nourriture. Donc il faut être économe. C'est vrai que les mouches sont un petit peu plus tranquilles.
Parce que ce qui surprend évidemment chez la mouche, c'est sa rapidité à fuir et à sentir le danger autour d'elle, hein, Christophe Daugeron.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est dû à toute une série de capteurs, comme vous le décrivez dans votre numéro, qu'on trouve sur la surface du corps. Et puis surtout la vision, évidemment, qui est extrêmement développée.
Il y a plusieurs centaines d'yeux sur une
mouche.
Tout
à fait. C'est-à-dire que les deux gros yeux qu'on voit sur une mouche, ce sont en fait des yeux composés sont constitués de petites facettes qu'on appelle aussi omatidies et qui constituent, enfin chacune de ces facettes constitue un œil à part entière. Ouais. Donc l'ensemble de l'image est reconstitué grâce à chacune des images produites par ces...
Qu'est-ce qu'on peut imaginer de cette vision de la mouche? Alors qu'est-ce qu'elle voit une mouche, a priori, on peut savoir un peu
Déjà, elle voit quasiment à 360 degrés, ce qui est fort pratique détecter la tapette. Et puis, on peut imaginer qu'elle voit un peu comme un ralenti de cinéma, puisque, en tout cas, la mouche domestique, elle est capable d'analyser à peu près 200 images à la seconde. Donc, c'est 10 fois ce que nous sommes capables de détecter. Et puis après, au niveau des couleurs, elles sont très, très attirées par le jaune. Hein, les corolles jaunes, par exemple.
Les quoi, pardon
les corolles jaunes. Ouais. Après, au niveau de la vision des couleurs, elles n'ont pas du tout la même vision que nous. Et puis, elles sont très sensibles au mouvement. Justement, je pense, par rapport à toutes ces petites cellules, à ces omatidies, bah forcément, dès qu'il y a quelque chose qui bouge,
ça
passe d'un œil à l'autre et ça, c'est très efficacement détecté par le système nerveux.
D'où la difficulté d'attraper une mouche, hein, véritablement.
Exactement, oui.
Une question de Suzanne qui est à Nantes. Parlez-nous des étés à mouches. À quoi sont-ils dus, Christophe Daugeron ?
Alors ça, c'est extrêmement difficile à dire. On est de plus en plus souvent contacté par des communes, par exemple, qui nous disent avoir des invasions de diptères à partir parfois du printemps. Mmh. Alors, certains mettent ça sur le compte du réchauffement climatique.
Il a bon dos,
mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible parce que souvent les mouches qu'on trouve en abondance dans nos campagnes, ce sont des mouches qui ne sont pas forcément qui correspondent pas forcément à l'espèce domestique Musca domestica, mais à des mouches relativement proches. Et on sait que leur cycle de vie s'accélère lorsque les températures augmentent. Donc lorsqu'on a des périodes de canicule, des périodes extrêmement chaudes, etc., on peut avoir un cycle qui s'accélère, et au lieu d'avoir 3 ou 4 générations dans l'année, on va en avoir 4, 5, 6.
Ah oui, quand
par
même.
Par exemple, ça peut augmenter de manière tout à fait considérable.
Mais on connaît la cause réelle ou pas alors?
Non.
Le bétail, ça peut être une des causes.
Le bétail peut être une cause, mais aujourd'hui, les élevages, en principe, sont régis par des règles sanitaires qui sont extrêmement strictes. Et moi, j'ai le cas d'un problème actuellement de ce type en Eure-et-Loire. Il y a à proximité du village un poulailler qui est nickel, où il n'y a aucun problème. Et donc, on ne sait pas du tout à quoi sont dues ces proliférations. Mmh. Peut-être, effectivement, le réchauffement sur de longues périodes commence à avoir des effets de ce type.
Lorsqu'on vous appelle justement dans une commune envahie par les mouches, mais vous faites quoi alors? Vous faites un constat et c'est tout?
Non, moi je suis là surtout pour identifier ou pour essayer de mettre un nom sur l'espèce qui est concernée, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, en France il y a 10 000 espèces de diptères. Sur les 150 000 dans le monde, il y en a 10 000 en France. Donc il faut déjà être capable de mettre un nom sur ces mouches invasives pour savoir de quoi on parle. Et pour au moins avoir des éléments de biologie et ensuite des éléments de réponse. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de tous les diptères, loin de là. Mmh. Donc je travaille en collaboration dans ce cadre-là avec des confrères étrangers qui m'aident à identifier ces mouches. Ce n'est pas toujours facile.
Mmh. Allez, les mouches, on en parle encore avec vous dans un instant. D'autres questions sur le site de La Tête au Carré, franceinter.fr et les réseaux avec le mot-clé l'attaque.
J'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y'a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour.
Tête au carré.
Bec mousse moustique, c'est un nouvel insecticide qu'on pulvérise dans l'atmosphère, mais aussi sur les surfaces où les insectes ont l'habitude de se poser. Bec mousse moustique, effet immédiat et effet prolongé.
Voilà une publicité pour une marque d'insecticides en 1976, extrait des archives de l'INA pour parler des mouches aujourd'hui avec la revue des Curieux de Nature, La Salamandre, Christophe Daugeron et Julien Perrault. D'ailleurs, on se disait avec Fanny Bouillon, en préparant l'émission, en écoutant cette publicité, qu'on ne voyait plus aujourd'hui de pub pour les insecticides à la télévision. C'est une idée ou pas, ça?
J'ai l'impression aussi, les insecticides ont plus très bonne presse et je pense que c'est heureux parce qu'on a fini par se rendre compte qu'en voulant intoxiquer nos petits frères insectes, ben, c'est à la santé humaine aussi qu'on faisait du mal.
Donc c'est ils vrai sont toujours en vente, mais on les promeut pas à la télévision.
Exactement. Il y a un progrès quand même là.
Christophe Daugeron, c'est plutôt pas mal, non?
Ben, c'est plutôt pas mal quand on pense qu'on pulvérisait ces produits dans nos maisons, là où on habite quotidiennement.
C'est vrai.
C'est assez dément. Hein. Je pense que les mentalités ont énormément changé en l'espace de 10-15 ans et c'est tant mieux.
La durée de vie d'une mouche, dans les questions générales, justement, je ne voulais pas poser tout à l'heure. L'espérance de vie, c'est de combien?
Très variable. Les insectes à métamorphose complète ont deux vies. Une vie larvaire et une vie adulte. La vie larvaire, elle sert principalement à se nourrir, emmagasiner de l'énergie. Et elle peut durer très longtemps. Une saison entière, un an, sans problème, dans certains cas. Et puis la vie adulte, elle sert principalement à rencontrer ou à rechercher, à rencontrer un partenaire sexuel, donc pour avoir des descendants. Et là, généralement, ça se passe en quelques jours, voire quelques semaines, ça suffit. Et voilà, donc...
Donc une mouche vit...
Elle peut vivre, à l'état adulte, c'est rarement plus de quelques semaines.
Roxane nous dit, il semble que certaines mouches, justement, des mâles, font des offrandes à leurs femelles.
C'est pour vous, ça c'est la question rêvée.
Oui, ben, je peux en parler un tout petit peu.
Alors, Christophe Daugeron.
Il y a effectivement des comportements assez exceptionnels chez certains diptères, qu'on appelle diptères empilides, peu importe ce nom un petit peu barbare, où les mâles capturent des proies qui sont offertes aux femelles avant l'accouplement. Donc c'est un cadeau qui est offert à la femelle.
Et c'est emballé, il y a un petit ruban.
Alors pas toujours, je vais y venir. Ouais. Ce petit cadeau est dévoré par la femelle pendant l'accouplement.
Ah oui, en plus, il faut que madame se nourrisse.
Donc comment allier l'utile à l'agréable?
C'est ça.
Parfois, ça va beaucoup plus loin que ça, les mâles sont capables d'emballer la proie dans de la soie qui est fabriquée par des glandes cirrhicigènes qu'on trouve dans les pattes antérieures des mâles. Sur le plan évolutif, on pense que ces glandes servaient juste à produire un tout petit peu de soie pour faciliter la capture des proies. Et probablement, durant l'évolution, on a un espèce de rituel qui s'est mis en place. Le mâle a utilisé cette production de soie pour emballer la proie, probablement pour augmenter la taille de la proie en apparence.
Ouais.
Et donc, on a un cadeau emballé. Voilà. Donc, vous avez le cadeau, papier cadeau.
Ça sert emballé dans tous les sens du terme.
Voilà.
Parce que c'est un avantage par rapport aux autres mâles aussi. Ouais.
c'est exactement ça. On pense qu'en fait, que les femelles choisissent les mâles en fonction de la taille de la proie, mais pas seulement. Si vous avez une proie, une grosse proie entre les pattes, votre vol va être moins efficace. Et les femelles sont aussi capables d'évaluer l'efficacité du vol. Donc il faut trouver une bonne taille de proie pour à la fois que la proie soit suffisamment grosse pour attirer la femelle, sans que cela soit préjudiciable à la qualité du vol. Alors à quoi sert cette proie? Eh bien, c'est l'apport protéique dont les femelles ont besoin pour la maturation de leurs œufs, puisque ces femelles, le reste du temps, sont des floricoles dans ce groupe de diptères, c'est-à-dire butinent, prélèvent du nectar, c'est-à-dire autrement dit que des sucres. Elles n'ont pas de protéines pour leurs œufs.
Alors justement, le rôle de pollinisateur des mouches, ça aussi c'est très important parce que l'abeille occulte un petit peu le reste du règne des insectes dans ce domaine, mais les mouches pollinisent aussi énormément.
Tout à fait. On est confronté aujourd'hui à une crise de la biodiversité qui est planétaire. Et depuis 20-30 ans, on commence à prendre conscience qu'il existe d'autres pollinisateurs que l'abeille domestique. Auparavant, on s'en préoccupait pas puisque l'abeille domestique n'était pas en danger. Aujourd'hui, l'abeille domestique est confrontée à toute une série de problèmes, des parasites, des insecticides, etc. Donc, on a commencé à regarder s'il y avait d'autres pollinisateurs. Alors, évidemment, il y a d'autres abeilles, des abeilles solitaires, etc., qui pollinisent beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup de diptères. Et notamment, toutes les études que nous sommes en train de mener actuellement montrent que ces diptères sont les principaux pollinisateurs dans les zones d'altitude ou dans les zones arctiques, ouais, par exemple. Donc quand vous arrivez à partir de 1500 mètres, 2000 mètres dans les Alpes, vous n'avez pratiquement plus d'abeilles qui...
Mais qu'est-ce qu'on pollinise dans les zones arctiques, justement?
Alors, il y a quelques fleurs qui poussent... évidemment, il n'y a pas d'arbres, mais il peut y avoir des prairies avec des fleurs. La floraison se fait généralement sur une période de temps relativement courte. C'est à ce moment-là que tous ces insectes apparaissent pour butiner et donc en même temps polliniser les plantes.
Colas demande pourquoi les mouches volent-elles en rond sous les lustres. Est-ce que quelqu'un a la réponse autour de cette table?
Sous les lampes?
Oui. Julien Perrault, vous êtes
Non, je réfléchis parce que bon, il y a toute la problématique des papillons de nuit et de toutes les espèces nocturnes qui sont perturbées par les éclairages artificiels. Maintenant, les mouches, j'ai jamais remarqué ça.
Bon. Ça ne change non plus. Eh bien, Colas vous a posé une colle. Vous aurez peut-être la réponse un peu plus tard. Jean-Laurent demande, vu la masse totale de mouches sur Terre, est-ce qu'on peut envisager de les manger à terme? Un peu de protéines diptériques.
Pourquoi pas? En tout cas, ce qui est curieux dans notre culture, c'est que la consommation de crustacés, donc de crevettes, de gambas, de langoustines, etc., c'est quelque chose qui est plutôt considéré comme étant luxueux et ça fait envie. Et puis la consommation d'insectes, qui en gros, les insectes, en gros, c'est des crustacés qui sont sortis de l'eau, si je schématise un peu, qui ont perdu quelques pattes. On trouve ça épouvantablement dégueulasse. Donc c'est très bizarre.
Un plat de mouche à la mayonnaise, c'est pas terrible quand même, non, a priori?
Non, mais il y a certains pays où les mouches étaient consommées, notamment au Mexique. On faisait une farine de mouche. Très nourrissante pour nourrir les familles.
En Asie aussi, sur les marchés, on trouve des insectes. Mais rarement, enfin, j'ai jamais vu de mouche, c'est d'autres insectes.
Jean-Louis demande, j'ai des milliers de mouches qui viennent sur ma maison alors qu'à 50 mètres sur une autre maison, plus proche d'une ferme, rien. C'est possible
alors, il ne ment pas, il dit la vérité.
Ça c'est incroyable.
C'est un problème qui n'est toujours pas résolu. On ne sait pas pourquoi, probablement des raisons d'orientation.
Alors qu'il y a une ferme dans la maison
tout
à côté.
Fait, mais ça, c'est un problème qui a toujours existé. Chaque année, en particulier, ça se produit à l'automne, lorsque des mouches cherchent à hiverner. Elles rentrent en masse dans certaines maisons. Et il y avait un spécialiste anglais, il y a 30 ou 40 ans, qui travaillait dans un muséum. Et quand on lui téléphonait à l'automne pour lui dire « Voilà, je suis envahi de mouches, qu'est-ce que je dois faire ?» Ce spécialiste anglais leur disait « Mais vous n'avez qu'à déménager. » Il n'y a aucune solution.
Ah, c'est bien ça comme réponse.
Désolé pour ce
monsieur. C'est un peu radical, mais...
Ouais, mais j'en ai pas d'autre.
Ben justement, tiens, on reste en Angleterre. Les midges, diptères présentes dans les zones humides, marécageuses d'Irlande, par exemple, ou d'Écosse, ou même en France, sont-elles des mouches?
Oui, tout à fait. Ouais. Ce sont joueurs...
Ça fait mal, ça.
C'est terrifiant, les midges. Ça pique.
Des simulis, qui sont des diptères piqueurs hématophages, et qui apparaissent généralement en grande quantité. Il y a des émergences extrêmement important. Donc,
comment peuvent-elles mordre aussi douloureusement, demande Christian, toujours dans son message.
C'est grâce à cause de leur appareil buccal qui transperce la peau. Ça fait très mal et surtout leur nombre qui est.
On n'en a pas en France des midges.
Si, il y en a aussi. Oui.
On en trouve. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, c'était passionnant et on peut prolonger justement la découverte de ces animaux dans ce dossier de la salamandre, la revue des curieux de nature, salamandre.net si vous souhaitez vous procurer ce numéro, pourquoi la mouche, et on vous retrouvera une autre occasion bien sûr, Julien Perrault. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Ainsi s'achève La Tête au Carré aujourd'hui. Merci à Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission. Demain, dossier consacré à la cybersanté pour voir si justement elle a modifié notre rapport à la santé.